sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la séance d'installation d'Éric Desmazières, artiste graveur de l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil de Jean-Marie Granier. Le 14 octobre 2009, Hugues Gall, membre de l'Institut, accueillait selon l'usage son nouveau confrère par un discours de réception auquel a répondu le nouvel élu par un discours d'hommage à son prédécesseur, Jean-Marie Granier. Retrouvons Hugues Gall de l'Académie des Beaux-Arts.
Madame le représentant de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Messieurs les ambassadeurs, Madame le représentant de Madame le directeur général de l'UNESCO, Amiral, Monsieur le grand chancelier, Messieurs les présidents, Monsieur le perpétuel, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, et si vous le permettez, chers amis. On peut s'interroger. En effet, pourquoi un directeur de théâtre, pire, un directeur d'opéra, autant dire une manière de fonctionnaire de la culture, est-il admis à l'honneur de recevoir sous la coupole un artiste, qui plus est, l'un des premiers graveurs de son temps ? Les deux premières raisons sont les meilleures et les plus évidentes. L'admiration que je vous porte, cher Éric, et à votre œuvre, et à vous-même, et l'amitié qui est née entre nous. Mais il y a d'autres affinités, plus intuitives et plus mystérieuses. Le solitaire que vous êtes nécessairement, œuvrant dans la concentration, dans le silence de son atelier, et l'animateur de masse artistique, technique, administrative, bien tumultueuse que j'ai été, ont en effet trouvé beaucoup à se dire. J'ai longtemps, trop longtemps peut-être, contribué à la vie d'un art social par excellence, l'opéra. Pendant que vous-même, outillé d'une pointe sèche, de vernis, de cuivre, parfois d'une mine de plomb, reproduisez le monde et les objets que conçoivent votre esprit et votre cœur. Le paradoxe du contraste entre nos deux activités n'est qu'apparent. Vous êtes ma part de contemplation, peut-être suis-je quelque peu votre part d'action. Dans sa sagesse, le premier consul a prévu que notre académie fasse vivre ensemble les praticiens de toutes les formes d'art, en ajoutant aux beaux-arts cardinaux la gravure. Et notre compagnie perpétue aujourd'hui cette tradition, puisqu'elle a enfin récemment créé en son sein une section de photographie. Votre élection, voici près de 2 ans, à l'un des 4 fauteuils réservés aux graveurs, nous a déjà valu un passionnant et fécond échange. Or, il s'en est fallu plus d'une fois de peu que cet échange n'ait plus lieu d'être. Alors que la peinture, la sculpture, les arts de la scène se portent bien, après avoir subi pour certains de fortes métamorphoses, la gravure a plusieurs fois failli disparaître purement et simplement. Elle a d'abord été créée au Moyen-Âge pour reproduire en relief, c'est-à-dire au moyen de formes de bois évidées, des images isolées et bientôt, avec l'imprimerie, des illustrations de livres. Même si des artistes s'expriment encore par la gravure sur bois, cette invention ne s'est pas beaucoup développée. Les difficultés à travailler un matériau si dur, à obtenir des lignes très fines, ont été de véritables entraves. Le pas décisif a été franchi avec l'apparition au XVe siècle de la gravure en creux et sur métaux, essentiellement sur le cuivre, inciser une plaque préalablement enduite d'un vernis spécial et faire mordre par l'eau forte. Les incisions faites par la pointe permettaient à l'encre déposée dans les creux tracés d'imprimer une feuille de papier. Par cette façon de faire des formes avec des lignes plus ou moins proches les unes des autres, larges ou au contraire très fines, on obtenait une image d'une qualité bien supérieure, plus précise, plus dense, plus veloutée que la traditionnelle gravure sur bois. Cette invention dut, semble-t-il, à un peintre, à un artifex, et non à un artisan, à un Faber, a démontré avec Dürer, par exemple, sa supériorité dès le XVIe siècle. Jusqu'à l'invention au XIXe siècle de nouveaux procédés de reproduction de l'image, cet art a pourtant été de nouveau menacé, cette fois par la tentation de la marchandise. Pourquoi ne pas confier à des armadas d'artisans la copie, souvent servile et sans imagination, des plus grandes œuvres, contemporaines ou non, de la peinture ? Le droit d'auteur étant, dans ce domaine, une notion parfaitement étrangère à l'esprit de nos aïeux, on ne voit pas qui aurait pu s'y opposer. Ainsi a pris corps l'idée qu'à part quelques cas, la gravure était devenue la servante industrielle de la peinture. D'où ces innombrables images des XVIIe et XVIIIe siècles qui portent la mention X delineavit ou pinxit, Y sculpsit. Elles sortent des mains des graveurs. On n'a même pas pris la peine de trouver un autre mot, certains talentueux, mais presque tous dépourvus de créativité. L'article gravure de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est tout à fait typique de cela. Du début jusqu'à la fin, dans ses illustrations comme dans son commentaire, il instruit son lecteur d'une technique et de rien d'autre. On dirait que son rédacteur n'a même pas imaginé qu'il s'agissait d'un art. Décidément, le graveur n'est qu'un Faber. Mais il y a toujours eu, Dieu merci, quelques peintres ou dessinateurs, des Callot, Abraham Bosse, Rembrandt, Piranèse, Goya, Doré, etc., qui ont, contre vents et marées, maintenu l'art de la gravure, et ce, pour la bonne raison qu'aucune des autres techniques qu'ils maîtrisaient ne donnait le même résultat. Ils savaient bien que c'était un mode d'expression à part entière. Bel exemple de volontarisme artistique. Peut-être est-ce l'apparition de la lithographie et bientôt de la photographie, accompagnée de procédés permettant la reproduction des images à l'infini, qui a obligé la gravure et les graveurs à persévérer dans leur être et à accentuer encore le génie propre de leur art. Avec leurs techniques traditionnelles, somme toute pas très coûteuses, ils se trouvèrent poussés dans leur retranchement. Au moment même où la peinture peinait à se libérer de rigides carcans, les graveurs s'adonnaient à la fantaisie et à l'imagination. Gustave Doré et William Blake me paraissent plus libres dans la gravure que dans la peinture. L'indépendance intellectuelle et plastique de ceux qui ont choisi de s'exprimer par la gravure est à présent une solide tradition. J'en veux pour preuve le travail des quatre précédents titulaires du fauteuil que vous occupez au sein de la section de gravure de notre académie. Les carrières parfois à contre-courant d'Albert de Caris, Roger Vieillard et Jean-Marie Granier, à qui vous succédez maintenant, couvrent plus de 2/3 de siècle, ce qui est un bel échantillon. Leurs œuvres, chacune à sa manière, préfigurent la vôtre par certains aspects. À côté du sage de Caris des timbres-postes et des effigies des grands hommes, il y a des Caris amateurs de monuments, de villes imaginaires, le créateur de chimères et de monstres. Roger Vieillard, qui a pris sa place en 1989, lui aussi a laissé son imagination vagabonder avec, et cela doit vous dire quelque chose, des œuvres nommées Babylone, la tour de Babel, la cathédrale, l'arbre du bien et du mal. Enfin, notre cher Jean-Marie Granier, illustrateur de nombreuses œuvres littéraires et figure de ses Cévennes natales, accordait lui aussi une grande part à l'imaginaire. Je ne suggère pas là que ce premier fauteuil serait réservé à des graveurs exploitant une veine particulière, plus propice à l'imagination, mais seulement qu'il y a entre vous tous une parenté, non pas forcément dans la manière, mais dans l'inspiration. Mais quand bien même ce fauteuil était pour vous, si j'ose dire, originalité, opiniâtreté, indépendance d'esprit, acharnement au travail et bien sûr, mais cela va mieux en le disant, talent. Le simple énoncé des événements clés de votre vie va nous montrer à quel point le dessin et la gravure semblent avoir été créés pour vous. Une première chose intrigue dans votre biographie. Vous êtes né en effet à Rabat, d'une famille de hauts fonctionnaires, votre père était diplomate. Vous avez grandi au Maroc, puis au Portugal. Les premières œuvres que l'on connaît de vous datent du début des années 70. Vous veniez à peine de passer le cap des 20 ans. Or, beaucoup des thèmes que vous affectionnez aujourd'hui sont déjà présents. Je pense en particulier aux villes imaginaires. Quant à votre manière, un travail extraordinairement précis, minutieux, elle est déjà là. Comme il est naturel, elle s'est perfectionnée et approfondie avec le temps. Mais on a l'impression que, telle Athéna sortant toute armée du cerveau de Zeus, votre art a surgi d'un coup, sans que vous ayez même eu besoin d'apprentissage. Le mystère s'épaissit quand on apprend qu'après avoir caressé le projet de devenir architecte, vous êtes entré au Sciences Po en 1967 et surtout que vous en êtes sorti diplômé en 1971. Pour avoir moi-même fréquenté cet établissement quelques années auparavant, je puis témoigner de deux choses. Un endroit où l'on enseigne les finances publiques et le droit administratif n'est pas très quatre arts. On n'y favorise ni le loisir ni la bohème, on y forme des gens sérieux. Plaie supplémentaire à l'Institut d'études politiques, on travaille et même on y lit le monde. On a le regard fixé vers le concours de l'ENA et l'on n'a pas le temps normalement de dessiner, encore moins de graver. Et pourtant, je ne sais si vous y avez été contraint ou si vous vous l'êtes imposé à vous-même comme un défi, vous avez fait d'abord des études on ne peut plus classiques, comme tout fils de bourgeois qui se respecte, et c'est seulement après votre diplôme et après quelques mois à l'École supérieure d'architecture que vous êtes inscrit au cours du soir de la ville de Paris comme un autodidacte doué, alors que s'ouvrait devant vous la voie sûre et moins risquée de l'administration de l'État, ou à défaut, Oresco Reference, une carrière de cadre supérieur dans une entreprise multinationale. J'insiste un peu là-dessus, non seulement parce que ce n'est pas un court parcours banal, mais aussi parce que cela en dit long sur la force de l'appel que vous avez dû ressentir du côté de la création. Je vois également un lien évident entre la patience et l'opiniâtreté dont votre travail témoigne. Combien d'heures passées pour couvrir quelques dizaines de centimètres carrés de papier ? Et la détermination qu'il vous a fallu pour vous soumettre, sous la direction de votre maître Jean Delpech, et encouragé grandement par Philippe Molitz, au difficile apprentissage d'une technique considérée comme élitiste. De plus, 3 ou 4 ans après mai 68, vous aviez le culot de cultiver les techniques anciennes, de ne pas mépriser la perspective, de faire toute sa part au rêve tout en restant dans le figuratif, dans ce figuratif oni. On a un peu oublié le climat de cette époque. On ne sait plus bien ce que les galeries exposaient. À court terme, vous ne pouviez qu'échouer dans la vie. Dédaigner le col blanc, choisir un mode d'expression en perte de vitesse et par conséquent peu lucratif, enfin travailler comme on le faisait quelques siècles plus tôt. Je me suis laissé dire que votre amour du dessin et la fécondité de votre imagination vous venaient de l'enfance. C'est bien probable. Seules des passions très longuement enracinées peuvent vous donner une telle détermination. Toujours est-il que vous apprenez vite et que vous faites une réputation auprès des connaisseurs. Vous avez à peine 30 ans quand la ville de Paris vous couronne de son grand prix des arts. Quelques marchands cultivés et avisés s'intéressent à votre travail en Europe comme à New York. À Paris, Bernier, puis Arsène Bonafoumurat, à Neuchâtel, François Dietesheim, à Londres, Christopher Mendes. Ce seront donc très tôt la Suisse, le Japon, la Hollande, l'Italie enfin, qui vous découvrent et vous sont fidèles. Vous avez aujourd'hui plus de 15 expositions. 3 volumes sur 4 du catalogue raisonné de votre œuvre ont paru sous la plume savante du galeriste new-yorkais Andrew Fitch. Les années 2000 vous verront exposer dans les lieux les plus prestigieux. Musée Carnavalet, Maison de Rembrandt à Anvers et Amsterdam, et Musée des Beaux-Arts de Montréal parmi d'autres. Vos œuvres sont acquises par le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France, par le British Museum, par de nombreuses autres collections publiques ou privées. Quels adoubements ! Vous avez choisi les chemins de crête, dont vous savez, comme de Gaulle, qu'ils sont les moins encombrés. Vous n'avez pas fait de concessions. Et c'est pour cela et non malgré cela que vous êtes aujourd'hui reconnu et admiré. C'est pour cela que vos pères vous ont porté en 2006 à la présidence de la très prestigieuse Société des peintres graveurs, fondée par Rodin en 1889. C'est pour cela, bien sûr, pour cela aussi que vous siégez parmi nous. J'espère avoir assez montré votre force de caractère et votre persévérance. Vous les avez manifestées dans la vie et on les retrouve dans votre travail. Il est ainsi évident, par exemple, que vous aimez le plein et évitez le vide, ce qui traduit une exigence de perfection, une angoisse aussi, peut-être. Aucun espace n'est laissé à lui-même. Votre pointe, fût-ce légèrement, passe partout. Vous n'avez pas votre pareil dans la lignée des Piranèses pour nous suggérer l'ombre et du coup la lumière. Enfin, même si vous n'êtes pas le premier à le faire, vous êtes à coup sûr celui qui le fait le plus souvent et le mieux. Vous excellez dans le passage à la couleur, souvent au moyen de l'aquatinte ou du lavis, parfois des deux, et aussi dans l'impression sur papier de couleur. Il est stupéfiant de voir les variantes que vous imposez à une primitive estampe. Certaines d'entre elles connaissent jusqu'à 7 ou 8 états, dont aucun ne serait plus beau que le précédent, mais qui sont autant de façons différentes de regarder une même chose. Je songe à vos vues du quai de Montebello ou de la rue Livingston. Vous avez aussi des ambitions artistiques hors du commun. Il n'est pas ordinaire pour un graphiste aujourd'hui de s'emparer d'une œuvre vieille de plus de 4 siècles, par surcroît de grandes dimensions, telle la Tentation de Saint-Antoine de Jacques Callot. Vous avez repris sur le cuivre la première d'une des 2 versions qui nous restent de cette eau-forte et vous avez poussé cette œuvre jusqu'à ses extrêmes limites. Rehaussée de lavis et d'aquarelle, tirée sur des papiers de couleur, ocre, gris ou bleu, vous avez fait mieux que Callot sans pour autant toucher à Callot ni en trahir l'esprit. Il doit tout de même y avoir en vous une inflexible nécessité intérieure pour oser des paris si fous. Une autre façon de mesurer votre constance et votre persévérance, c'est d'observer quelques permanences de votre œuvre. Je vais d'ailleurs commencer par ce que l'on n'y trouvait pas il y a 40 ans et que l'on ne trouve toujours pas ou très peu, la nature végétale. À cet égard, vos dessins bourguignons réalisés chez Marc-Antoine Fer font figure d'exception. Votre monde, qu'il s'agisse de machines volantes, de quartiers de villes, d'intérieur privé ou d'atelier, c'est un monde construit par l'homme. Antoine Vitez, pour lequel vous avez dessiné les décors des Burggraves, Antoine Vitez, qui comptait parmi vos admirateurs, voyait dans votre univers un rêve de pierre. Moi, j'y vois aussi un lait de Jules Verne, que je crois vous affectionner particulièrement. Il n'y a guère de place non plus chez vous pour le bucolique ou pour le géorgique. Probablement craignez-vous d'être entraîné vers la mièvrerie, ou bien préférez-vous ce qui, comme vos gravures, résulte d'un travail méthodique, même la mer est façonnée par l'homme, quai, portique, embarcadère, vaisseau, ce n'est jamais vraiment la mer. S'il semble que vous représentiez à présent moins volontiers les personnages grotesques ou fantastiques, les guerriers, les batailles, on retrouve en revanche de bout en bout, depuis le début de votre carrière, un goût prononcé pour les villes. Certaines sont réelles, on reconnaît Amsterdam ou Paris, votre Paris, ce Montmartre où vous habitez, mais aussi imaginaires. Elles sont alors dépouillées, réduites à l'état d'écorché, si j'ose dire. Il y a même des vues de villes réelles, mais fantasmées. Les passages de Paris que vous affectionnez sont montrés avec une extravagance de vraisemblance. On décèle aussi votre long compagnonnage avec les livres. Isolés, en rayon, rassemblés par millions dans les bibliothèques, de la salle Labrouste à la bibliothèque d'Alexandrie, vous nous montrez des livres. Comme Borges, que vous avez illustré, ce monde vous fascine et s'accorde bien avec un sens aigu de l'érudition que vos gravures nous révèlent. Vous traitez les bibliothèques comme vous le faites des autres architectures. Du réel et du descriptif, on passe sans s'en apercevoir dans l'onirique, le rêve, encore le rêve. Le dernier signe que je relèverai de votre intérêt pour les objets, ce sont les curiosité. Vous avez maintes fois montré l'idée que vous faites de ces cabinets où jadis on rassemblait pêle-mêle des animaux empaillés, des statues, des fragments de squelettes et mille autres choses pour former un véritable pandémonium. Vous avez décidément un goût pour la richesse du monde, pour l'accumulation, pour l'érudition, mais sans l'ombre de la moindre cuistrerie. Faut-il, pour s'en convaincre davantage, s'approcher de l'une de vos œuvres majeures parmi les plus récentes ? Je veux parler de ce grand format que vous avez consacré au magasin de Robert Capia. Ce lieu magique, vous ne l'avez pas imaginé. Il n'est plus, mais beaucoup l'ont connu. Il est resté longtemps ouvert, mystérieux, sur l'étonnante galerie Véro Doda, l'une de ses adresses comme Balzac les aimait, repère d'un nouveau cousin Ponce ou cabinet d'un autre Coppelius. Vous ne l'avez pas imaginé, mais vous l'avez portraituré, en y projetant votre songerie et en y évoquant par une sorte d'enchantement les ombres de ceux qui l'ont hanté. Oui, vous en avez fait le portrait, et par là même, c'est celui de son propriétaire que vous avez, comme en creux, dessiné. Ils sont là encore, entassés dans un savant désordre, les objets les plus hétéroclites, les mannequins désarticulés, assis sur une pile de grimoires, leurs yeux vides, fixant pour toujours le superbe bric-à-brac des bouquins, des bibelots, des breloques et des bustes antiques. La pénombre s'éclaire en de savantes intermittences, et là-bas, au-delà de la porte vitrée, dans la lumière plus vive, un vide se fait éternité. Puis-je voir dans votre magasin de Robert Capia, dans cette surprenante nature morte, une manière d'écho, votre réponse à l'ancienne de Gersin du Grand Watteau, son contraire ou son reflet inversé? Et puis, il vous faut revenir encore et toujours sur le laboratoire de René Tazé, où sont nées tant de vos œuvres. Ce lieu, aujourd'hui disparu, que vous avez lui aussi fixé pour l'éternité, j'y vois plus qu'un portrait, l'allégorie de votre art, si solitaire, si dépendant et si solidaire du talent du taille-doucier. L'un de vos commentateurs, le regretté François Wasserfallen, parle de votre septième version d'un sujet qui vous est parmi les plus chers. Il le fait mieux que tout autre de vos glossateurs. Écoutons-le. L'amoncellement de papier, utilisé ou prêt à être imprimé, les cartables, l'abondance des instruments et les roues imposantes des presses, le travail artistique s'exprime dans cette harmonie étrange de l'ordre et du désordre, et bien sûr, dans ce télescopage malicieux, la gravure que l'on contemple, c'est ici qu'elle a été imprimée, c'est le lieu de sa propre naissance qu'elle nous donne à voir, mise en abîme exemplaire, la représentation de l'atelier est aussi mise en scène du mystère de la création. Dans l'espace de l'atelier, Desmazières dévoile une part de son intimité artistique. Fin de citation. Cette longue connivence avec René Tazé, vous la recréez aussi régulièrement, avec d'autres artisans, d'autres complices, à Saint-Pré, aux rives du Léman, dans le laboratoire de gravure fondé par Pietro Sarto, voici plus de 40 ans. Lorsque vous étiez enfant, vous rêviez. Vous rêviez, au nom pas de ces rêveries aux évanescences romantiques, vous rêviez un rêve bien ancré dans le réel, dans une réalité bien à vous. Vous construisiez un royaume dont vous étiez le créateur et le maître. Ce jeu, si l'on peut appeler jeu une affaire de cette importance, ce jeu progressait chaque jour. Les duchés s'ajoutaient aux comtés. Les fleuves bornaient vos états que sillonnaient de ville en ville tout un entrelac de routes et de canaux. Les lacs y étaient poissonneux, les forêts giboyeuses à l'envi. Vous régliez avec sagesse et bonhomie les conflits de vos peuples, cependant que vous leur bâtissiez palais et cathédrales. Ce royaume a un nom, Tap, Tap. Je parle de lui au présent, car vous n'avez jamais vraiment cessé de le penser, de l'enrichir. Permettez-moi aujourd'hui une question. Votre royaume, monsieur, est-il doté, comme tout royaume qui se respecte, d'une académie? Je veux dire, d'une académie des beaux-arts, bien sûr. Si ce n'est pas encore le cas, alors, monsieur, ne rêvez plus. Nous voici prêts, nous, vos nouveaux confrères, prêts à couronner votre création, à y figurer sous la coupole de Levaux, dans cette sublime architecture que votre talent ne voudra que fort peu retoucher, j'en suis sûr. Oui, transportez-nous, installez-nous chez vous et surtout gravez-nous. Nous vous promettons d'être sages. Nous ne déparerons pas votre domaine, pas plus que les lecteurs ne perturbent les voûtes de la salle Labrouste telle que vous l'avez fixée. Nous serons heureux, car nous y serons comme aujourd'hui et pour l'éternité en votre compagnie, c'est-à-dire en compagnie d'un héros. Ce mot vous fait sourire, il heurte votre modestie. Mon cher confrère, cher Éric Desmazières, écoutez-moi. Vous êtes une quintessence, hélas bien rare aujourd'hui, de ce que devraient être les héros de notre temps. Maîtrisant à la perfection les techniques anciennes, ils nous feraient aimer ce que la modernité nous offre. Nous avons déjà plus de 200 gravures de vous, mais ce n'est pas assez. Notre monde a besoin de votre regard et de votre main. Restez, je vous prie, très longtemps parmi nous.
Merci, cher Gall. La parole est maintenant à notre cher, je l'espère aussi, Éric Desmazières, et j'en suis certain.
Mon cher Hugues, merci pour ces paroles qui me sont allées droit au cœur. Et l'amitié que j'ai pour vous et pour beaucoup dans ma présence ici. Madame le représentant de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Messieurs les ambassadeurs, Madame le représentant de Madame le directeur général de l'UNESCO, Monsieur le chancelier, Messieurs les présidents, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères et consoeurs, chers amis. Ce n'est pas une mince affaire que de se faire accepter des immortels, moi qui n'avais jamais voulu m'inscrire à l'école des beaux-arts de peur du bizutage. Une pratique alors en vigueur qui me terrorisait, me voilà aujourd'hui soumis à un rite initiatique autrement périlleux. Une installation, performance comme chacun sait éminemment contemporaine, qui aurait comblé d'aise mes parents, soulagé de me voir enfin casé, admis dans l'institution la plus respectable qui soit. Pour commencer, je vous dirai ma gratitude. Comme mes lointains prédécesseurs, ceux qui forcèrent en leur temps les portes de la toute jeune Académie royale de peinture et de sculpture, je vous suis reconnaissant d'être reçu comme eux sur la sainte présentation de mon œuvre. Abraham Bosse, François Chauveau, Israël Sylvestre, Sébastien Leclerc, Gérard Audran. Tous ces hommes, sans l'opiniâtreté desquels l'art de graver n'aurait jamais été reconnu ni décrété art libéral, par l'arrêt qu'ils firent signer le 26 mai 1660 au jeune Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, quelques jours avant son mariage avec l'infante d'Espagne. Belliqueux ils l'étaient et le furent une seconde fois, en 1803, quand ils durent de nouveau forcer les portes de l'Académie renaissant de ses cendres, après l'épisode révolutionnaire et sa dissolution par David. Car le graveur en taille douce, on le sait, a pour lui et ses pairs et son art le mordant de l'attaque, la constance du labeur, l'entêtement de l'artiste accroché à sa plaque. L'Académie d'aujourd'hui, comme celle d'hier, se doit de protéger cet art vulnérable qu'est la gravure. Telle est l'une des missions qu'elle n'a cessé de remplir et que nous nous devons de poursuivre. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le burin était à l'honneur à l'Académie. Pour être reçu, les agréés devaient graver, buriner le portrait ou l'autoportrait d'un de leurs pairs. Graver consiste à jouer des deux extrêmes, le blanc du papier et le noir de l'encre. Seul le burin était capable de rendre, par l'enchevêtrement des tailles, contre-tailles, tailles rangées, losanges pointés, hachures en treillis, la gamme savante des grisés qui fait émerger le motif et retranscrit en jeu d'ombre et de lumière les couleurs disparues du tableau. Au siècle suivant, la compagnie décida de continuer de soutenir cette gravure d'interprétation, la seule qui passait aux yeux de tous pour artistique, très laborieuse, trop peu lucrative, vouée au dépérissement. Elle était menacée par les autres arts de la reproduction contre lesquels, loin de là, fleurissait l'estampe originale. Aujourd'hui, évidemment, l'estampe et l'académie se sont dégagées de ce passé pesant. Seule demeure l'estampe des peintres-graveurs et depuis plus d'un siècle, votre compagnie a ouvert, timidement il faut le dire, mais ouvert tout de même, ses portes à d'autres techniques, le bois, après l'élection en 1945 de Démétrius Galanis et plus récemment la lithographie et l'eau-forte. J'en appelle maintenant à sa sagesse pour qu'elle accueille aussi un jour tous les procédés dès l'instant où il y a œuvre, œuvre originale. Tous sont dignes d'être soutenus, car, ne soyons pas modestes, l'estampe, quelle qu'elle soit, mérite d'être protégée parce que, de façon inestimable et particulière, elle est un art de la générosité, certes un peu contrainte, puisque nous limitons nos tirages. L'acte de création est unique, mais ensuite l'estampe s'imprime et se démultiplie. Ainsi, je fais mien le propos de Jean-Michel Alberola, qui a rejoint notre monde de graveurs précisément parce que, je le cite, « l'idée de l'édition est noble, élégante, démocratique ». Le reniveau de l'estampe originale, qui s'est fait en grande partie au XIXe siècle contre la pratique traditionnelle et académique du burin, a fini par contaminer, absorber le burin lui-même. Symbole d'un certain conservatisme, celui-ci a su incontestablement se renouveler. Avec Jean-Émile Laboureur, pour commencer, et plus près de nous, Joseph Hecht, arrivé de Pologne après la Première Guerre mondiale, Albert Flocon, venu d'Allemagne en 1933, brillant pédagogue, théoricien de la perspective comme le fut en son temps Abraham Bosse et auteur du fameux Traité du Burin en 1953. Jean Delpech, qui fut mon professeur au cours du soir de la ville de Paris, Abraham Kroll, buriniste également d'origine polonaise, Pierre Courtin, dont les burins très creusés sont de véritables œuvres en trois dimensions, enfin Jean-Marie Granier, qui s'inscrit parfaitement dans cette renaissance du burin d'artiste. Je respecterai la discrétion dont Jean-Marie Granier a entouré sa vie et je resterai dans les limites de ce qu'il voulait bien confier. Il évoquait ici même, le jour de son installation, sa retenue naturelle et ajoutait avec pudeur que son entrée à l'Académie le faisait sortir de cette solitude qui, sa vie durant, a nourri son aventure de graveur, silencieusement penché sur le cuivre ou la page blanche. Je ne rapporterai nulle anecdote personnelle qui serait irrespect, nul épisode intime qui serait trahison. Mon indiscrétion s'en tiendra à l'incursion que je fis dans les Cévennes, à Laborie, un domaine où il fait bon vivre, avec ses vignes, son potager, son verger. La maison est saisissante de beauté et de poésie, une sorte d'ermitage pour un sage retiré du monde. La bâtisse est ancienne, perdue dans la montagne. De grands arbres se balancent dans le vent jusqu'à toucher les murs. Un terrain très pentu, où il n'est pas rare de voir les traces de sangliers et de chevreuils. Des murs de pierre qui retiennent la terre des faïs, comme on dit là-bas. Des bassins qui se succèdent le long de la pente. Et partout, la plus belle musique qui soit, le bruit du vent dans les arbres. À l'écart de la maison se trouve le petit atelier qu'il fit construire par son fils Pierre, complètement vitré sur les quatre côtés. Une table, une chaise, une radio au sol, un lieu d'une extrême simplicité, s'ouvrant sur la nature environnante, un bel endroit pour la méditation où l'on peut encore voir le cuivre sur lequel il travaillait quelques jours avant sa mort. La salle, cette terre des Cévennes qui le vit naître le 25 mars 1922 et mourir le 4 août 2007, son pays natal auquel il était si attaché qu'il a tant inspiré, la contemplation inlassable de ses paysages, de ses lointains, de ses montagnes, de ses rochers, de ses forêts. Toutes ces formes ont nourri sans faillir son besoin compulsif de dessiner. Ce pays, il dut pourtant s'en éloigner enfant pour étudier chez les Maristes d'Aubenas, car sa famille faisait partie de la minorité catholique. Sa mère voulait qu'il quittât le village Cévenol, s'instruisît et abandonna la ferblanterie familiale. Elle fut l'agent du destin. De l'artisanat à l'art, elle l'ignorait, mais le fer-blanc et le zinc étamés par le père s'aplanirent entre les mains du fils en fines lames à buriner. Clin d'œil à la tradition, la gravure en taille douce est sortie des ateliers, ceux des orfèvres, qu'on se souvienne de Durer. Clin d'œil aussi à ces vocations que l'on aime à s'imaginer prédestinées et inscrites dans l'histoire des familles et des filiations. Le grand Claude Mélan, par exemple, était fils de chaudronnier. Après cette enfance et cette adolescence, ce fut la guerre et son départ douloureux en 1942 pour l'Allemagne dans le cadre du STO. Employé dans une usine à Chemnitz, près de Dresde, il pratiqua pendant 2 ans le dessin industriel tout en crayonnant à côté, scènes de rue, groupes aux terrasses des cafés où se mêlent civils et militaires. Les nombreux croquis conservés de cette période montrent un réel talent d'observation dans une veine qui n'est pas sans rappeler les expressionnistes allemands. Et ces années furent déterminantes pour la découverte de sa vocation. De retour en France, sa décision était prise, il serait artiste. Après 1 an passé à l'École des Beaux-Arts de Nîmes, le voici inscrit à celle de Paris. Comme il le dit lui-même, c'est un peu le hasard des rencontres, qui l'orienta au sein de l'école vers la gravure, technique qu'il apprit dans l'atelier de Robert Camus et Démétrius Galanis. En 1949, il exposa pour la première fois à Paris dans la Galerie des Beaux-Arts avec ses amis Arnulf et Mario Avati. Puis, autre heureux hasard de la vie, il rencontra sa future épouse, José Dira, qui, du haut de ses 17 ans, était la Benjamine de l'école. C'est en sa compagnie que, jeune marié et jeune diplômé, il partit pour la Casa Velázquez. Et là, ce fut l'immersion dans l'Espagne des années 50. La guerre civile n'était pas si loin. Il parcourut un pays encore marqué par la tragédie récente. Mais ce fut surtout la beauté âpre de ces contrées encore très rurales, sévères, misérables, celle qui hante les premiers films de Buñuel ou les photographies de Echagüe qui l'émut et le fascina. Il en crayonna inlassablement l'immensité des lointains et emmagasina une quantité innombrable de dessins qu'il rapporta en France. Et puis, il visita le Prado, découvrit le Greco, Goya, et commença à graver ses inaugurales tauromachies, 30aine de planches, souvent sur le vif. De retour à Paris, nécessité oblige, il lui fallut gagner sa vie. Il réalisa de nombreux travaux d'illustration courante, des couvertures de livres, mais aussi ses premiers ouvrages de bibliophilie. Citons parmi ceux-ci Une ténébreuse affaire en 1954 et la même année Climat de Mauroy. Comme il l'avait fait en Espagne, il amassa à Paris et chaque été dans le midi dessins, pointes sèches, griffonnées d'après nature, et Burin mûrit plus lentement en atelier. L'année 1959 marque un tournant décisif. Claude Escolier, alors directeur de l'École des Beaux-Arts de Nîmes, lui proposa de devenir professeur de dessin. Pas d'anecdote, ai-je dit, une légende toutefois. Aux aléas de la vie, au hasard qui commande nos destinées, Jean-Marie Grenier aurait ajouté sa propre malice et joué à pile ou face sa décision. Accepter ce poste d'enseignant, c'était s'éloigner de l'effervescence parisienne, du marché, des galeries, opter pour un travail solitaire. La famille Granier, avec ses 2 jeunes enfants, Françoise et Pierre, s'installe d'abord à Nîmes, dans un modeste appartement, puis tout près de là, à Caveyrac, où le maire, Georges Dayan, met à leur disposition un magnifique atelier et un très beau logis. Et loin d'être un exil, ce retour au monde méditerranéen, aux Cévennes, à ses paysages, à La Salle, avec l'achat de la Borie en 1960, fut une période d'une extrême fécondité. Jean-Marie Granier réalisa des dizaines de suites, j'en cite au hasard, Bestiaire des Mantes et Abeilles, Suite du Lézard, Suite Coquillage à la Douzaine, 49 Abeilles, Camargue, Cévennes, Suite des Nus. Il n'en continua pas moins de participer à des expositions collectives à Paris, à la Société des peintres graveurs, par exemple, pour ne citer qu'elle, en 71, 72, 78, où il se trouve d'ailleurs que nous avons exposé ensemble. À Nîmes, dans la galerie de Daniel Crégu, qui fut la seule à diffuser ses estampes et lui consacra 3 expositions personnelles en 72, 74, 78, et aussi à l'étranger, Venise, Bruxelles, Londres. Mais l'enseignement était sa seconde grande passion. Jean-Marie Granier y resta attaché sans interruption jusqu'à sa retraite en 1987. En 1976, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris fit appel à lui pour enseigner le dessin. 3 ans plus tard, elle lui confiait l'atelier de gravure, tenu jusque-là par Jacques Lagrange. Il faut le dire, plusieurs générations d'étudiants furent marquées par son intransigeant attachement au Burin. On pourrait presque dire « en dehors du Burin, point de salut ». Et ils sont encore nombreux aujourd'hui à lui être redevables de cette passion ombrageuse mais communicative. Et parallèlement, il continue à graver toujours des suites, j'en cite au hasard, « Essai pour Eros, figure ». Courbe, petite suite du Capricorne mort, aquatique, souvenir de Venise, grand labyrinthe. Mentionnons aussi Orbe, un bel ouvrage sur un texte de Jean Laude réalisé en 1982. Enfin, en 1984, le musée des Beaux-Arts de Nîmes lui organise une très importante rétrospective Et 10 ans plus tard, le musée municipal du Colombier d'Alès expose sa production de la décennie passée. Cette vie entièrement vouée au travail, cette vocation d'enseignant hors pair, trouvèrent un aboutissement logique avec son élection parmi vous en 1991. Et là commença pour lui une nouvelle carrière. En effet, en 2000, il est nommé directeur du musée Marmottan-Monet. Outre les aménagements de rénovation qu'il concrétisa avec bonheur, il initia plusieurs expositions importantes. Mentionnons parmi celles-ci la nouvelle présentation des enluminures de la collection Wildenstein en 2001, la très belle exposition Frédéric Bazy d'octobre 2003, l'exposition de l'excellent peintre provençal Paul Guigou en 2005 et surtout en mars 2006, l'exposition Camille Claudel qui eut un grand retentissement. Malgré ses nouvelles fonctions, Jean-Marie Granier n'en continua pas moins son travail personnel. Et en 2005, consécration ultime, la galerie Wildenstein de Tokyo lui donne à voir en 26 gravures, de la suite Espagna à celle des Petits Labyrinthes, une sélection très représentative et très convaincante de son œuvre. Jean-Marie Granier avait raison d'être discret sur sa vie personnelle. Certes, elle guida et induisit son travail, mais ne saurait l'expliquer en profondeur. Sa seule concession à l'intime était d'avouer cette communion de sentiments partagée par tous les burinistes. L'extrême contentement éprouvé à Gravé, comme il le déclarait ici même le jour de son installation, le 25 mars 1992. « Oui, disait-il, il aimait la pression de l'outil dans le creux de la paume, la spirale de métal devançant l'entaille creusée par la pointe du burin. Le silence, la solitude qui enveloppe la sobriété du geste, sa pureté. Et l'étonnement ensuite devant la magie opérée, l'estampe faite poésis. Il était conscient de faire œuvre d'artiste, une œuvre immense, 3000 estampes. Mais surtout, œuvre éminemment moderne, de celles si spécifiques qui précisément impliquent l'engagement physique dans l'acte de création. Sans réticence aucune, il évoquait son rapport physique à l'outil et à la plaque. Il aimait parler de ce qu'il appelait l'attaque directe du cuivre, qui lui faisait rejeter la chimie de l'eau-forte, cette cuisine de l'acide. Il voulait être en prise directe avec le support, répétait-il, moderne, mais pas avant-gardiste. S'il disait que c'est précisément ce rapport au corps qu'il avait amené au burin et qu'il suffisait d'un clou pour faire un sillon, il était trop amoureux de son outil pour en éprouver la technique, et jamais il n'a voulu sortir des limites du rectangle de sa planche. Cette attaque qui lui plaisait tant est semblable à celle du pianiste entamant son morceau sur les touches de son instrument. Cette projection du corps réfléchissant et réinventant la gestuelle de l'artiste en action, j'en ai l'intime conviction, est celle du calligraphe chinois. On le sait, mais les Occidentaux que nous sommes avons du mal à le saisir, le geste est essentiel dans l'art oriental. Il devance le coup de pinceau et fait de la calligraphie un art du mouvement marqué par les pulsions rythmiques et codifiées qui animent la main, le bras, le corps de l'artiste. Il préexiste au silence des mots, au texte du monde. La trace ancrée n'y est que résiduelle. Simon Leys m'approuverait, Jean-Marie Granier s'est fait le calligraphe du burin. Et je crains maintenant d'être un peu abscon. Plonger dans la métaphysique d'une œuvre est un exercice oral redoutable. Pourtant, je me dois de rendre hommage à la quête incessante qui a dynamisé feuille à feuille les dessins et les estampes d'un artiste fasciné par le monde, quête qui lui tenait tant à cœur et sur laquelle il s'est longuement expliqué. Paysages, garrigues, carrières, arbres, natures mortes, bestiaires, coquillages, nus, dessinés d'après le motif, c'est ce qu'il n'a cessé de faire. Mais des premières tauromachies aux ultimes labyrinthes, le chemin parcouru est impressionnant. Progressivement, Jean-Marie Granier a transcendé le motif pour qu'en finale, toute figuration soit absorbée dans l'abstraction pure. Car au-delà des apparences, déniant toute mimésis et toute référence à l'image, il cherchait à épurer son regard de tout savoir pour arriver, expliquait-il, à la trame vraie des choses, des êtres, des animaux. Point, courbe, ligne, arête, strie du signe à la trace, Jean-Marie Granier a réinventé pour lui et ses rares initiés le trait, le sillon dans le cuivre, tout un vocabulaire. Je reprends ici la métaphore qui lui était chère, destinée à retranscrire la syntaxe sous-jacente du monde en retrouver la rythmique des phrasés subtiles qui sillonnent l'espace, les échapper sans plonger en abîme ni mise en perspective. Là est l'originalité et la puissance de son œuvre de dessinateur et de graveur. Il déclarait sans vergogne qu'il n'avait rien vu, qu'il n'était pas un historien de l'art, qu'il était un culte. Il disait aussi son sentiment de se répéter. « J'ai toujours l'impression de faire la même chose depuis 30 ans. Je voudrais une évolution, mais je ne la vois pas. » Non, il n'était pas un culte, bien loin de là. À parcourir l'ensemble de son œuvre, c'est évident, elle est l'approfondissement par un graveur averti de l'univers formel des contemporains qui ont eu à voir avec la ligne pure et la limite des aplats, de celle qui induit le trait. Il est en sympathie avec Picasso, bien sûr, avec Lursa, mais je pense aussi à Nicolas de Staël, Pierre Soulages, Ubach, Talcoat, Geneviève Haas. Vieira da Silva et sa suite au Burin, L'inclémence lointaine, illustrant René Char, si proche des carrières de Beaucaire que Jean-Marie Granier réalisait exactement à la même époque, en 1960. Et puis voilà, maintenant, il y a toutes ces estampes et ces centaines de dessins déposés à la salle, qui survivent indépendamment de leur auteur et dont son ami Jean-Louis Vidal a entrepris le catalogue raisonné. J'ai eu le privilège de les voir tranquillement à deux reprises. À n'en point douter, c'est une œuvre graphique cohérente qui se suffit à elle-même, condition sine qua non pour passer à la postérité. Cohérente et qui échappe à la monotonie, contrairement à ce qu'il disait. Les petites suites du début sont comme de délicates sonates, les grandes séries plus tardives de magistrales symphonies. Je pense à Topologie du labyrinthe, à Camargue en 78-79, à la suite sans titre de 79. Les mouvements lents et rapides alternent, la ligne devient musique. L'espace de la feuille est occupé avec parcimonie sur certaines planches, d'autres sont saturées de signes. L'orchestration s'y fait plus riche. L'outil choisi, le burin, donne à cette musique une ampleur, une résonance très particulière. Le format des planches augmente et atteint des dimensions très inhabituelles. Dans la suite des grands et petits labyrinthes, réalisés entre 1994 et 2003, c'est une apothéose. Jean-Marie Granier fait incontestablement partie de ces artistes qui ont su se bonifier avec le temps. Mais il est aussi l'homme des surprises et des paradoxes. Tout d'abord, par son goût sans réserve pour ce que nous appelons dans notre monde de graveur la suite. Suite ornementale, suite paysagée, suite religieuse, mythologique, suite morale, suite d'artiste, le monde de l'estampe est peuplé de suites. Jean-Marie Granier fait sienne cette tradition. Rares sont les points sèches, les burins qui n'entrent pas dans une série. Et l'on comprend pourquoi. La suite est l'art de la variation, celle qui décline et module le motif choisi en nuance les différentes facettes pour en mieux conter l'histoire. C'est l'art de la relation sans mots, tout en images. 3000 estampes, ai-je dit, regroupées en plus de 150 suites. De l'une à l'autre, parce qu'il réécrit au jour le jour le monde qui l'environne, Jean-Marie Granier, homme de la discrétion et de la subtilité, nous y raconte sa vie, nous y dévoile ses attachements et nous y révèle ses leitmotifs. Moins personnel, mais tout aussi surprenant, cet autre paradoxe qui traverse son œuvre. Sa pratique ascétique et traditionnelle du burin ne l'a pas empêché d'être d'une audace graphique extrême, ni de tenter des expérimentations étonnantes qui se révélaient d'ailleurs être un casse-tête pour ses taille-douciers. Graver ses cuivres recto-verso, imprimer sur la même feuille deux cuivres l'un après l'autre, parfois dans le même sens, parfois en les retournant, pour qu'apparaissent des images aléatoires, énigmatiques. Ces recherches sont restées très secrètes, car là est le troisième paradoxe. Jean-Marie Granier a pratiqué une technique qui permet la multiplication, la diffusion, sans qu'il n'en profitât. Tout occupé à attaquer ses planches, il a élaboré une œuvre qui restait en grande partie inédite et cachée. Car ce qui le passionnait, c'était l'impression, pas la diffusion, l'unicité, pas la répétition. Ses tirages sont confidentiels et en général, seules quelques épreuves d'essai sont tirées quand il décide de jouer sur la gamme des blancs du papier. Alors, ultime paradoxe, à l'évidence, pris au piège de la confidentialité et de la discrétion, Jean-Marie Granier n'occupe pas dans le paysage de l'estampe contemporaine la place qui assurément lui revient. Certes, son admission parmi vous son entrée à l'Académie lui avait montré combien il était apprécié et reconnu de ses pairs. Mais je me prends à rêver qu'une institution, un musée, une bibliothèque patrimoniale recevra un jour son œuvre et la donnera à voir au public. Je le dis avec d'autant plus de conviction que je ne connaissais pas Jean-Marie Granier avant d'avoir l'honneur de lui succéder. Son œuvre immense fut pour moi une révélation et j'ai éprouvé la sensation de l'explorateur qui parcourt des terres inconnues et qui espère faire partager à d'autres sa découverte. Car, et c'est par là que je finirai cet hommage, son œuvre nous démontre que la gravure, l'estampe, est loin d'être un moyen d'expression obsolète. Il n'est pas vrai que les outils qui, avant les grands labyrinthes de Jean-Marie Granier, ont donné la mélancolie de Durer, les tentations de Schongauer, de Callot, le passage de la mer Rouge du Titien, les autoportraits de Rembrandt, les prisons de Piranèse, les caprices de Goya, les grandes planches anatomiques de Gautier d'Agoty, le bon samaritain de Bresdin, la minotauromachie de Picasso, les bois de Munch, les suites de Max Klinger, la suite Volard encore de Picasso, les natures mortes de Morandi et même les autoportraits de Chuck Close puissent appartenir à un médium suranné. Comme le montrent ces exemples, on doit à l'estampe parmi les plus somptueuses et les plus signifiantes images de l'art occidental. Que les créateurs d'aujourd'hui, que nos jeunes artistes surtout, ne se privent pas de cette manière de créer, sous prétexte que tout cela appartiendrait au passé. Gageons que dans le futur, parce que les artistes se doivent d'être des gens libres, en s'emparant de ces outils traditionnels, ils créeront des images tout aussi saisissantes qui forceront l'admiration, ce qui n'empêchera pas d'autres techniques novatrices et inattendues de produire leurs propres chefs-d'œuvre. Il en est ainsi de l'histoire des arts. Elle dessine une arborescence, de nouvelles branches poussent alors que les anciennes continuent à donner des fruits. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance d'installation d'Éric Desmazières au sein de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 14 octobre 2009 sous la coupole de l'Institut de France.